Fleur CV avec Pascal CV.
OK, vous attendiez de pied ferme sur le Twitch. Merci d'être là en aussi grand nombre. C'est le fun de vous savoir à l'écoute de l'heure CV et de Boulevard 102.1. Toutes les équipes sont vraiment contentes de voir qu'on peut se jaser en temps réel puis avec la caméra. Là, il y en a un qui attendait au bout du fil. Puis je vais vous dire une affaire. C'est particulier de quoi on va jaser aujourd'hui. Je vous l'ai dit un peu là, avant qu'on accueille notre chroniqueur du lundi matin. Mais ça reste particulier de voir ça en 2024. On dirait qu'on recule sur tellement de choses. Mais des fois, il y a des choses que fondamentalement, peut-être en termes d'opinion, parce que je reviens toujours à quelque chose que Sophie Marineau avait dit et Benjamin Toubol, nos deux experts en politique internationale, Ukraine, Russie et tout ce qui est Moyen-Orient. Par exemple, si on prend la Chine, bon, un petit exemple comme ça là, qui n'est pas souvent dans celui que j'aime aller, hein? La façon de gérer la politique, la façon d'être au pouvoir en Chine, la façon de vivre en Chine, est-ce que c'est une mauvaise façon? Je m'explique. Avec nos yeux d'occidentaux, avec notre façon de faire ici, avec nos valeurs sociales, avec notre filet social, avec... c'est un peu scandalisant parfois de voir une dictature, de voir... Mais si on revient là à l'essence même de ce qu'on est en tant qu'humain, on est influencé par tout ce qui nous entoure depuis notre naissance. On est influencé par ce qu'on a connu. On est influencé par les valeurs qu'on a côtoyées tout au long de notre vie puis qu'on a déployées nous aussi, là, qu'on a bâties aussi en tant que personne. Mais vous comprenez où je m'en vais. Ce qui fait en sorte que, y a-tu vraiment quelqu'un qui est capable d'être certain qu'on vit mieux que, par exemple, les Chinois? Si on enlève l'opinion, si on enlève ce qu'on a cru ou autre, est-ce qu'on est capable de dire qu'on est meilleur que les autres? La réponse est fort probablement oui en termes de valeur sociale, mais c'est assurément non en termes de comparatif si on y va de façon extrêmement philosophique et terre à terre. Donc, la manière dont le monde tourne en ce moment, la redéfinition géopolitique, la redéfinition de qui est plus fort, la redéfinition de faire la guerre, la redéfinition des territoires, la redéfinition de bâtir une société. Comment est-ce qu'on la monte, cette société-là? C'est quoi les valeurs de cette société-là? Est-ce qu'on est capable de dire qu'on est meilleur que les autres? Je pense que sur le plan social, sur les droits, sur l'individualité de chacun, sur comment on voit le monde, nous, en tant qu'Occidentaux, la réponse, ça va être oui, mais... je pense qu'on n'a pas nécessairement le mode d'emploi par excellence, puis que personne, là, même pas eux, tu sais, c'est sûr. Mais je vous parle de ça parce que, comme disait Vincent Vallière, le monde tourne mal, de notre point de vue, là, en ce moment. Les guerres un peu partout, le doigt pas loin de l'arme nucléaire, la façon dont on discute, on a nos petits problèmes municipaux, on a nos problèmes provinciaux, on a nos problèmes fédéraux, on a nos problèmes sociaux, économiques, on a nos filets sociaux problématiques aussi. Mais si on sort de cette bulle-là, puis de toutes ces bulles-là qui grandissent comme des poupées russes, il y a la grosse poupée russe du monde. Puis il y a une redéfinition des valeurs, une redéfinition de qui est la première puissance mondiale, bien que les États-Unis le soient encore du côté de l'armement et du côté économique, bien, ils vont se faire dépasser peut-être, ou du côté du pouvoir aussi. Ils en ont perdu à travers les années au profit d'une Russie, au profit de la Chine, au profit de l'Inde, au profit de... Voyez où est-ce que je m'en vais. Et ça va avoir un impact sur nos petites vies. Mais quand, comment, pourquoi? C'est déjà commencé. Alors, quand je vous dis qu'on recule sur certains enjeux, bien, il y en a un dont on va aborder immédiatement avec notre chroniqueur du lundi, qui doit attendre, qui doit avoir hâte d'entrer dans la conversation. Il est au bout du fil. Salut Frédéric Bérard, auteur, avocat, chroniqueur. Comment vas-tu?
Non, je ne suis pas pressé du tout. Hein. J'écoute, je prends des notes, je réfléchis et j'arrive à la conclusion très certaine que tu es en pleine forme.
Ça, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, ça dépend de ton énergie à toi, mais si tu veux entrer dans cette énergie-là, oui, je suis en forme, mais je me pose quand même ces questions-là, pas au quotidien, là. Écoute, je suis capable de décrocher, d'aller faire de la moto, de respirer, d'aller courir, mais c'est quelque chose qui m'anime, puis tu le sais, on se connaît depuis assez longtemps pour ça, et puis quand on est venu qu'à discuter ce matin sur ce qu'on a vu en fin de semaine du côté de la France, oui, en ce moment, on parle de fonds publics au Québec, de problèmes en éducation, de l'inflation, il fait beau aujourd'hui, demain, il fera pas beau. On parle de tout ça, mais il y a comme quelque chose, j'appelle ça l'épée de Damoclès au-dessus de notre tête, puis là où je rejoins un peu ma génération parfois, puis je veux pas affoler personne, c'est de faire des enfants dans ce monde-ci en 2024. Puis là, pour les vieux de la veille, ils vont dire, ben, on a connu la Première Guerre mondiale, on a connu la Deuxième, on a vécu la guerre froide, on a vécu plein de chamboulements, on n'est pas la première génération à les vivre, mais on se pose quand même la question de qu'est-ce qui attend nos enfants. Puis avec la fête des mères en fin de semaine, il y a une couple de mamans qui doivent se dire, ce sera quoi l'avenir de mes enfants, même pour les papas? Mais qu'est-ce qui attend mes enfants? Ça va-tu être une dureté économique toute leur vie? Il y a eu un excellent texte de la presse en fin de semaine là, sur qu'est-ce que vont devenir les boomers. Je vais en parler un peu plus tard sur les ondes de Boulevard 102.1, mais quand même, tout le monde se pose des questions sur c'est quoi notre avenir. Et là, quand on parle d'enjeux qui reculent, j'ai envie qu'on aille écouter ce qui s'est passé du côté de la France avant que tu le commentes, Frédéric. Il y a eu une manifestation nazie. Vous avez bien entendu, il y a eu une manifestation nazie en fin de semaine. Des gens... Puis là, c'est pas la droite, parce que je veux pas affoler au 88-971-101 tous ceux qui sont plus de droite sur l'échelle politique, mais d'une extrême droite. Et puis, on peut entendre que même au niveau de la collectivité des Français, il y a une division en ce moment. Il y en a qui sont percutés, qui sont sans connaissance de ce qui s'est passé. Voyons un peu en son qu'est-ce qui se passait dans les rues de Paris en fin de semaine.
Oui, ils ont le droit de manifester, mais quoi, c'est pour la Palestine? Non, on interdit. Mais c'est quoi ça? Regardez, franchement, mais ça c'est la honte, la France, la honte. C'est juste une honte, une marche de facho en fait, une marche de putain de raciste. Qu'est-ce qu'il y a? Je parle, qu'est-ce qu'il y a? Je peux te mettre devant moi, ça va rien changer. C'est des sales fachos, des sales putains de racistes de merde en fait. C'est tout. Des sales putains de fachos en fait. Et je marche, je suis en France, c'est mon pays. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content, c'est pareil. Putain de pays de fachos là. Quand c'est pour la Palestine, quand c'est pour les musulmans, ah là, non, on interdit. Mais quand c'est pour une marche de putain de fachos, de raciste de merde, là...
Bon, cette jeune femme-là s'est illustrée comme étant bien fâchée en fin de semaine, puis on comprend, ça vient à prendre émotivement. On voit des gens, là, des plus que... Ils sont beaucoup, là. On y va avec près d'une centaine de personnes qui marchent dans les rues de Paris avec des bracelets rouges autour du bras, des gens qui vont très loin dans leurs commentaires. Ils ont des tatouages nazis, ils ont des chants racistes. Et le tribunal administratif de Paris a autorisé cette manifestation-là samedi. Frédéric Bérard, où est-ce qu'on s'en va? De nos yeux d'occidentaux, de nos valeurs occidentales, c'est un peu fascinant, troublant de voir ça, là.
Ben, tu sais, quand je disais que tu étais en pleine forme, il n'y avait absolument aucun sarcasme. C'était très, c'était très sincère et premier degré parce que je suis tellement content qu'il y ait des médias, dont toi, vous êtes assez peu, en fait, on est assez peu, qui s'alarment de la suite des choses. Hein? Je trouve qu'on banalise tout ce qui se passe à l'échelle internationale en matière géopolitique, recul du droit des femmes, par exemple, aux États-Unis, le droit à l'avortement, communauté LGBTQ. Il y a une partie de l'Europe qui a voté pour l'extrême droite, hein, comme par exemple l'Italie, les Pays-Bas.
On ne parle pas de notre droite à nous, là. On parle vraiment d'une extrême droite.
Là, c'est les gens qui sont à droite qui nous écoutent. Là, c'est pas
on
ne
parle pas de vous, là. Non, c'est ça.
Mais pas de vous, une seconde.
Je te coupe 30 secondes pour faire une parenthèse sur ce que tu dis. T'es content qu'on en parle sur les ondes puis que les médias en parlent. Mais moi, des fois, je me pose la question, est-ce que je dois en parler? Parce que c'est tellement loin des gens, ça semble tellement loin des gens quand ça a des impacts au quotidien dans nos vies malgré tout, mais qu'on n'en est pas nécessairement conscient. Puis en même temps, ça donne pas des belles émotions. On a été échaudés avec la pandémie, on est stressés avec l'argent. À chaque fois que je viens avec l'envie d'aller dans un sujet comme ça, je me pose la question, est-ce que je vais plus avoir un impact négatif sur la santé mentale des gens? Mais en même temps, je trouve qu'il y a un devoir d'en parler parce que ça se passe. C'est déchirant même pour quelqu'un qui a des choix médiatiques à faire, là.
Non, puis oui, je comprends. Puis les chroniques, le choix des chroniques, le thème des chroniques, on les choisit ensemble. Puis je le fais avec aux autres endroits où je travaille aussi. Mais pour moi, on peut pas. On est mieux. C'est toi qui es étudiant en psychologie, mais de ce que j'ai compris, il y a une espèce de réflexe de tomber dans une espèce de déni, en quelque sorte, plutôt que d'affronter ce qui est plus difficile. L'esprit probablement tout croche, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Et puis moi, je pense
que... Du déni volontaire, là.
Oui, puis parce que c'est pas si loin. Hein. Quand on parle du recul du droit à l'avortement aux États-Unis, qui est en flambée actuellement, il y a des projets de loi en Caroline du Sud qui visent à appliquer la peine de mort à une femme qui se ferait avorter. Il y a une femme en Ohio qui se fait poursuivre pour avoir profané un cadavre parce qu'elle a fait une fausse couche dans sa salle de bain. De penser que le Canada est immunisé contre cette vague-là et la vague européenne, je pense pas. Si on vient à Paris... il y a eu un petit lapsus, tu disais, il y a une centaine de participants, c'est pas une centaine, c'est pratiquement 1000 manifestants nazis affichés dans les rues de Paris. C'était, écoute, ça a commencé à 600, c'est tombé à 800. Il y en a qui disent que c'est plus, mais là, à 800, si tu veux. Ça commence à faire bien du monde. Puis tu avais une manif comme celle-là l'année passée où il y avait beaucoup moins de monde. Bref, ça grossit sans cesse. Et on ne peut pas banaliser. C'est le discours du Troisième Reich, là. C'est le discours de Hitler qui est tenu en pleine rue, vous l'avez entendu. Et au sud de la frontière, ici, on a un candidat à la présidentielle américaine, Donald Trump, qui, en décembre et janvier, a cité à 6 reprises Mein Kampf de Hitler, notamment la phrase célèbre suivante, « Les immigrants sont le poison de notre pays ». C'est parce que comment vous pensez que ça va finir, là?
Il y a quelque chose quand même à mentionner dans tout ça, parce que pour avoir beaucoup d'amis qui vivent en France, puis dans les discussions qu'on a, là, peut-être qu'on parle de racisme, mais pas peut-être avec cette manifestation-là puis ces militants-là. Effectivement, il était minimalement 600 en commençant. Où je vais aller, c'est des centaines de personnes, mais il était menaçant, il était cagoulé, il se cachait, mais il déambulait quand même dans les rues de Paris. On a permis cette manifestation-là et j'en ai parlé avec mes amis de la France en fin de semaine. Puis après plusieurs années, en fait, à chaque fois que quelqu'un qui migre ici, la première question que je pose, c'est « Pourquoi? » Puis ça semble super simple comme question, Frédéric, là. Pourquoi? Mais ce qui ressort du pourquoi, c'est la sécurité. On ne sentait pas la sécurité. On ne sent plus chez nous. Puis pas on ne sent plus chez nous parce qu'il y a des immigrants qui arrivent, mais on ne sent plus chez nous parce qu'il n'y a pas eu de politique d'intégration qui a fait en sorte que... Tu sais, je veux dire, la France, quand on vient qu'à immigrer en France, là, c'est entouré de d'autres pays. C'est pas comme nous où, normalement, on prend l'avion où il y a deux frontières. Tu sais, t'as peut-être la possibilité de traverser le Mexique, pas traverser les États-Unis puis arriver chez nous, mais sinon, il va falloir que tu prennes un bateau, il va falloir que tu prennes un avion.
Géopolitiquement parlant, on est ultra isolé quand
oui.
on
Oui, ça amène peut-être un petit peu plus de politique d'immigration. Puis encore là, on n'a pas fait tant que ça parce qu'on se dit justement, c'est pas tout le monde qui nous choisit, puis on a plus de plans à mettre en place pour nous choisir. Mais du côté de l'Europe, il y a une certaine passoire, ce qui fait en sorte que tout le monde se croit encore dans ses valeurs où ils immigrent. Il y a des valeurs de droit, puis il y a des valeurs sociales en France qui ressemblent beaucoup aux nôtres. Et elles sont transgressées. Puis ça fait en sorte aussi qu'il y a eu de l'isolement. Donc, il y a des petits regroupements de communautés qui se sont formés avec les valeurs de leur religion ou avec les valeurs. Puis je mets des gants blancs, mais en même temps, j'en mets pas parce que je veux dire les vraies choses, qui se sont formés. Puis dans le respect et le droit de la personne, il y a eu beaucoup d'enjeux de sécurité, des vols, des agressions, de la violence dans les rues. Ça a été exacerbé à travers la dernière décennie. Puis j'ai l'impression que là, des gens qui ont eu peur ou qui ont vécu des choses se sont fâchés à l'extrême et donc on met tout le monde dans le même panier et ils sont peut-être, ces gens-là, vos voisins d'hier, vos amis d'hier qui maintenant sont cagoulés dans une manifestation nazie, là. Mais ça se peut, ça, puis c'est ce qui nous pend au bout du nez quand on ne gère pas bien l'immigration, quand on ne s'assure pas de faire respecter les droits sociaux et les valeurs sociales d'un pays aussi. La peur.
Je ne sais pas à quel point je suis d'accord parce que moi, ceux qui me disent, puis ça ne contredit pas ce que tu dis, mais le modèle français, il faut appliquer ici le modèle d'intégration français. La réalité, c'est que la France, c'est un bordel épouvantable en termes d'intégration. C'est le pire modèle que tu peux avoir. Moi, Pauline Marois disait ça en 2012, nous, on s'inspire de la France et non pas du Royaume-Uni, blablabla, OK, t'as bien beau. Mais la réalité, c'est que la France, c'est un échec total. Les immigrants, on les fout dans des banlieues perdues où ils n'ont pas de job, où nécessairement, ils ne pourront jamais sortir de là, sont coincés là-dedans. Là, il y a une criminalité, parce qu'on dit, bien, regardez, hein, c'est bien la preuve, ce sont des criminels. L'autre affaire...
On dit la même chose alors, Frédéric. Ça crée de l'isolement.
En fait, ça, c'est
oui, vas-y.
L'autre affaire sur les immigrants, tu sais, quand tu vois la petite vidéo que je t'ai envoyée, que tu as fait jouer à tes auditeurs, auditrices, si je ne me trompe pas, où c'est une jeune femme noire, c'est pas par exemple une Sénégalaise, une Camerounaise, qui s'en va dire, je ne sais pas quel extrait t'a fait jouer, je n'ai pas entendu, mais elle dit, vous êtes qui, vous, pour me dire que je ne suis pas française? C'est parce que je n'ai pas la même couleur de peau. Vous êtes qui là-dedans? Puis la France s'est construite avec une immigration pendant longtemps, évidemment, qui venait d'Afrique du Nord en partie, pour ne pas dire en bonne partie. Ça s'est plutôt bien passé, sauf depuis fin des années 90, début 2000, où là, on a ostracisé comme jamais. Puis là, on se ramasse avec... On va s'entendre, là, ça reste des anecdotes, là. sais, je veux dire, tu peux pas prendre quelques figures de, comment je te dirais, tu peux pas prendre quelques éléments, il est arrivé ci, il est arrivé ça, ben voilà, c'est la communauté maghrébine qui est en cause, c'est toujours le problème. Je veux dire, ça, c'est les médias français qui jouent là-dessus, les CNews de ce monde, qui appartiennent d'ailleurs à Vincent Bolloré, qui est un facho, puis il s'en cache même pas. On spinne ça dans la tête des gens, puis après ça, ben, il y en a qui finissent par dire, ben, regardez, c'est la faute des immigrants. Moi, si je ramène ça au Québec, et la réalité, là, c'est que ça va bien ici. On a un bon modèle d'intégration. On sac patience, pas parfait, là, mais on sac patience au monde. Des histoires, il n'y en a pas. Puis je vois, ou à peu près, en tout cas, s'il y en a, je
Moi,
connais pas.
je trouve qu'on les intègre pas assez, là. En fin de semaine encore, je te donne l'exemple, OK? Jasais avec deux profs, deux de mes très bonnes amies, qui, pendant au moins 2 heures, m'ont parlé d'enjeux particuliers. Il y en a une, entre autres, OK, qu'elle a un immigrant qui arrive d'Afrique dans sa classe, puis il est sourd et muet. Ça, c'est un jeune qui n'est en aucun cas capable de communiquer d'une manière ou d'une autre avec qui que ce soit, et même son enseignante, parce que dans le pays d'où il vient, il n'y avait pas de mesures comme nous on a, par exemple des écoles spécialisées pour des sourds et muets, puis on va leur apprendre à parler le langage des signes dès l'enfance. Ça veut dire que nous, on a appris, j'ai une bouteille jaune dans les mains, là, que ça, c'est une bouteille, OK, par un langage, bouteille, mais eux n'ont même pas appris à dire bouteille avec leurs doigts. C'est le cas du petit gars. Il est dans la classe, il pleure chaque jour. Chaque jour, il est dans le fond de la classe, il pleure.
On prend pour
Parce qu'il ne peut rien faire, il ne comprend rien. Et la prof, elle s'est fait dire, on va te payer la fin de semaine pour aller apprendre le langage des signes. Puis elle a dit, OK, mais même si moi je l'apprends, lui ne le connaît pas. Et le rattrapage que j'ai à faire, c'est de partir de la base comme un enfant qui est assis à terre avec sa couche, puis qui joue avec ses jouets, puis qu'on commence dès son plus jeune âge à lui apprendre le langage. Lui, ça part de zéro dans un pays qui n'est pas le sien et que les parents ne savent même pas c'est quoi un ice pack, puis ne savent pas que la mayonnaise, ça va au frigo ici. Fait qu'ils font un sandwich à mayonnaise à leur enfant qui arrive, puis il est périmé sur l'heure du lunch. Fait que là, faut expliquer c'est quoi. Puis il y a des profs qui ont ces enjeux-là à chaque jour, puis le petit gars là, qui pleure à chaque jour dans la classe, il apprend rien, puis il passe le temps. Parce que notre école spécialisée, par exemple, est pleine. Puis ajoutons à cette histoire-là le comble du malheur, puis de ça qui est épouvantable, qui est juste une situation, puis ils m'en ont rencontré plusieurs, puis j'aimerais ça que les profs m'en envoient au 88-971-1021, parce que là, je trouve que c'est particulier, tu sais. Mais il va doubler. Ils ont décidé de le laisser dans cette classe-là l'an prochain. Parce qu'ils se disent, il y a déjà un contact avec toi, on ne va pas le chambouler encore plus, mais il n'apprend rien pareil. Il est en première année, ce petit gars-là. Pas capable d'apprendre à compter, pas capable d'apprendre à parler. Puis ça, ils vont me dire, il est sourd et muet. Il y en a peut-être plein de petits Québécois de souche ou de petites Québécoises de souche qui n'ont pas les services pour évoluer. Mais le retard qu'il est en train de prendre, c'est un retard qui va être continuel. C'est peut-être, puis là, j'extrapole, mais c'est peut-être un enfant qui ne va jamais se développer, qui va demander de l'aide sociale dans plusieurs années, qui va toujours se sentir isolé, qui va avoir des problèmes de santé mentaux, des problèmes de santé point. Il y a beaucoup de choses qui, pour moi, m'apparaissent épouvantables, mais pour un individu duquel je vous parle aujourd'hui, là. Mais pour une autre histoire, une famille d'immigrants qui arrive puis que finalement leur enfant doit avoir une francisation. Il l'a à moitié, mais il faut qu'il continue son parcours scolaire, puis il prend tout le temps du retard, ralentit le groupe, pas capable d'aller avec un enseignement normal pour les autres élèves parce que l'enseignante doit prendre l'élève avec elle, à côté d'elle, à tous les jours, pour essayer de le faire avancer parce qu'il parle pas sa langue, il y a un autre dialecte. Mais ça, c'est des enjeux d'immigration où on n'est même pas capable de leur offrir des fois un loyer adéquat. On leur donne de l'aide sociale avant même de les aider à trouver un travail, puis eux, ils veulent contribuer à la société, ils veulent travailler. C'est, je suis pas sûre que toutes les brèches de base là, dans notre immigration sont colmatées. Oui, ça va mieux qu'ailleurs, mais quand je vois ces problématiques-là, puis si c'est un détail à la limite dans tout ce qui peut se passer, je me dis, hey, on pourrait en échapper à quelque part, là, puis faire en sorte que ces gens-là s'isolent entre eux parce qu'ils vont se comprendre en termes de langage, en termes de culture. Il manque un genre de, quand vous arrivez ici, pas les règles de la société, pas juste comment est-ce qu'on vit, puis c'est quoi les droits fondamentaux de tous et chacun, mais je reviens à la base aussi sur la mayonnaise ici, à vos frigos. Tu sais, c'est des petits détails qu'on pense que c'est niaiseux. Mais on n'offre pas cette possibilité-là à ces gens de s'adapter puis de s'intégrer à 100%. Puis ça, ça crée des dommages collatéraux, puis ça prend du retard. Puis finalement, ben, on ne s'intéresse pas à eux parce que ça ne va pas assez vite. Je me rappelle d'un immigrant, hey, je suis dans une envolée lyrique, Frédéric, je te jure, là, je te repasse la balle dans pas long, mais un immigrant, j'avais invité, j'avais fait une entrevue sur un banc de soccer dans une game amicale avec lui à Québec. Puis j'avais coupé des clips, je l'avais présenté en ondes, puis il avait dit, « Hey, moi, combien de fois j'ai passé pour un agresseur? » Parce que dans ma culture, il n'y a pas de « sans oui, c'est non ». Dans ma culture, c'est « je dois charmer la femme ». Puis elles disent non tout le temps, puis là, il faut que je sois... je reviens à la charge. Puis j'ai compris quand on me l'a dit. Puis d'arriver à l'heure aussi à mon travail, là, personne ne m'avait dit que c'était essentiel. Pour nous autres, on arrive quand on arrive, puis... mais ici, c'est une valeur professionnelle. Il dit « j'ai eu l'air d'un gros lâche combien de temps ?» Il était tellement lucide et intéressant. Puis il dit ça, j'aurais aimé ça l'apprendre. Parce qu'après, peut-être, nous, on juge certains immigrants. On dit, hey, là, ça, c'est un lâche, un paresseux. Il arrive tout le temps 15-20 minutes après le travail. Ou c'est un agresseur. Ou c'est... Oui, il y en a pour qui il y a des déboires importants puis qu'il faut prendre en compte. Mais est-ce que vraiment on laisse la chance à ces gens-là de comprendre les valeurs? C'est là où je suis un peu en dichotomie des fois, puis un peu divisé, puis un peu en besoin d'en apprendre plus sur ces gens-là, puis à défendre peut-être le manque d'intégration qu'on vit quand même, mais pas à la mesure de la France en ce moment, puis des gens fâchés qui s'en vont dans les rues pour faire une manifestation que je croyais jamais voir et entendre de ma vie, soit une manifestation nazie. Voilà, la balle charlance, Frédéric Attrapla.
Ah, bien, j'ai plus rien à dire. Là, tout a été dit. Non, bien, je veux dire, le cas du petit gars qui est sourd et muet, je pense malheureusement, pauvre petit pit, moi, j'ai de la peine pour lui, là, déjà, en commençant. T'imagines, t'es sourd et muet, tu viens d'arriver dans un pays, tu comprends rien, puis, tu sais, c'est d'une tristesse absolue. Pour le reste, si tu regardes les chiffres de l'OQLF, les immigrants apprennent le français, ça, c'est la bonne nouvelle, surtout quand on parle d'Afrique du Nord. Hein, on voulait avoir, ça, c'est dans le temps de René Lévesque, on voulait avoir des immigrants francophones pour des raisons évidentes. Il y a eu une entente qui a été conclue avec le fédéral en 1979, l'entente Colin Couture à cet effet-là, où tous les immigrants francophones, Québec avait le premier choix là, dans le bassin, si je peux dire, d'immigrants. Ce qui a fait en sorte qu'on a eu beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de Marocains, beaucoup d'Algériens, des Tunisiens et autres, puis des gens du Sénégal, Cameroun et ainsi de suite. Puis pour le reste, je veux dire, c'est sûr que tout le monde peut avoir son anecdote, son histoire, puis ce qui témoigne que le système n'est pas parfait, ça, c'est sûr. Puis est-ce qu'il pourra un jour l'être? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une solution à ça? Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est quand tu regardes les indicateurs, au Québec, l'intégration se passe franchement mieux qu'ailleurs, de manière générale, au Canada aussi, habituellement. Puis pour reprendre la balle en sens inverse, si vous allez en Afrique ou en n'importe où en Asie, racontez c'est quoi un CHSLD. Allez leur dire que nous, ici, ça, là, ouais. Nos petits vieux, on les met dans des cabanes avec des fonctionnaires payés pour les torcher. Comment ça? Bien, on ne s'en occupe pas. Comment ça, vous ne les hébergez pas chez vous? Ah, bien là, on n'a pas de temps pour ça. On n'a pas de temps de niaiser. Puis ça coûte cher. Vous allez passer pour une belle gang de maudits sans cœur. Donc, en d'autres termes, tu sais, les valeurs, ça, c'est... Moi, je fais toujours attention à l'ethnocentrisme, hein, de penser que nos valeurs, tu le disais d'entrée de jeu, en introduction, là, que nos valeurs sont nécessairement supérieures à... Je pense qu'il y a un relativisme qui doit s'appliquer, c'est-à-dire que ça dépend t'es où, ça dépend. Par exemple, les personnes âgées, je reviens encore à ça, mais c'est important, en Asie et en Afrique, très notamment, sont excessivement prisées, sont considérées souvent comme les personnes les plus importantes de la société, alors qu'ici, on l'a bien vu avec les scandales de CHSLD dans Heron et compagnie.
Il y a eu d'excellents reportages de Boris Proulx du Devoir et de Guillaume Piedboeuf de Radio-Canada. Cet automne, les deux sont allés en Asie puis ils ont parlé.
Ah oui,
tu relis ça. Puis
c'est bon?
On les avait eus en entrevue et dans leur CV. Et les deux journalistes ont rapporté des perles.
Ah ben oui, mais c'est Boris, je le connais, puis c'est vrai, je savais qu'il était allé en Asie, mais je ne savais pas qu'il avait fait ça. Ben tu vois, ça c'est la preuve un peu de ce que je te dis. Donc moi, je fais toujours bien attention de juger, parce que franchement, on est toujours un peu l'immigrant de quelqu'un en quelque sorte, hein, quand on sort de chez nous. Puis pour le reste, ben c'est sûr que s'il y a des choses à améliorer, Ben qu'on le fasse. Puis ça prend des moyens, ça prend des mesures.
Puis on est-tu à l'abri de ces manifestations nazies-là qu'on a vues du côté de la France? T'as toujours des extrêmes, t'as toujours des gens qui vont voir la vie comme on la verra jamais, puis qu'on est plutôt dans l'inclusion, puis on pensait que tous les enjeux de la Deuxième Guerre mondiale, puis les lubies de Hitler étaient derrière nous, puis qu'on voulait jamais redéterrer ce genre de choses-là. Mais est-ce que, si je me fais l'avocat du diable, pas que ce soit acceptable, je le déplore, là, vous comprenez, j'espère, vous me connaissez depuis un bout quand même, mais est-ce que ça peut, puis c'est le côté psychologique, là, est-ce que ça peut mener à ça, des gens qui, à un moment donné, se perdent dans leur peur, puis deviennent extrêmes dans leur position parce qu'ils ont vécu des enjeux de sécurité? Comment ça s'explique?
T'as pas besoin de chercher bien, bien loin, là, si je te dis Alexandre Bissonnette.
Ah oui, ben oui.
Alexandre Bissonnette, c'était...